Bonjour chers éditeurs et bienvenue. Ici Elicia pour l'émission Le Monde des mots et des mythes. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème de la justice à travers le roman Le jeu des tricheurs d'Anita Regins et le mythe de la déesse Thémis. Je vous souhaite une excellente écoute. Avant de nous plonger dans le sujet principal, comme d'habitude, quelques informations cinématographiques et littéraires. Après le succès de la série Peaky Blinders, un film intitulé L'Immortel est en préparation. Les fans attendent avec impatience le retour de Cillian Murphy dans son rôle de Tommy Shelby. L'acteur irlandais Barry Keoghan jouera le fils de Tommy Shelby, Duke. Et le film sortira le 20 mars sur Netflix.
Vous habitez une maison hantée par les fantômes. De gens qui ont perdu la vie à cause de vous. Vous avez abandonné votre héritage et vous avez abandonné votre fils.
Ton autre fils, ton fils Romani, il dirige les Peaky Blinders comme si on était de nouveau en 1919.
Je peux rien pour lui. Parce que je ne suis plus cet homme-là, aujourd'hui.
Il faudrait que je sache si vous consentez à participer à un acte de trahison qui fera basculer la guerre en faveur de l'Allemagne.
Personne n'en a rien à foutre de ma gueule. Et moi, j'en ai rien à foutre de personne.
C'est vrai ce qu'on dit, que cette guerre serait pas la tienne. Plus maintenant. Dis-moi où se trouve mon fils.
T'es qui, toi, putain ?
Vous allez tous rester bien tranquilles, parce que l'homme qui est devant vous, mesdames et messieurs, s'appelle Tommy Shelby.
Et alors, il sort d'où, ce Tommy Shelby ?
Quelqu'un devrait peut-être lui expliquer qui je suis.
Après le retour très attendu de Tommy Shelby, d'autres films rythmeront le mois de mars. Notamment Wedding Nightmare partie 2 et The Bride le 4 mars.
Quelqu'un peut m'aider ? S'il vous plaît ! Je voulais pas ça. Je voulais rien de tout ça ! Je vous en prie. Allez ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce qui s'est passé ?
Tu as eu un accident.
Un accident ? Ah oui.
On t'a déterré. Et on t'a ramené à la vie.
Pourquoi tu t'intéresserais à une morte ?
Je suis pareil. Je suis né d'entre les morts. Je suis un monstre.
Ouais, moi aussi.
Ce monde est un trou noir.
Les corrompus ont fait leur temps. La vie est ici, et ce sont les monstres qui vous la portent.
Oui, oui.
Pitié, ne tirez désolé, pourquoi? T'as fait quelque chose de mal? Et tu pensais pouvoir t'en tirer? Juste la fiancée. Oh. Terrifiant. Hein.
Ensuite, nous avons des adaptations littéraires très attendues. Le film The Magic Faraway Tree, prévu le 27 mars, adapté de la saga d'Enid Blyton, une saga fantastique. Un autre événement notable, l'adaptation du roman Reminder of Him de Cullen Hoover, le 18 mars. De plus, un autre de ses succès, Verity, aura également le droit à une adaptation prévue pour la fin du mois de septembre. Je vous encourage vivement à lire les livres avant de regarder les films, même si je dois admettre que je ne les ai pas encore lus moi-même. Pour conclure cette partie cinéma et séries, Netflix a officiellement annoncé que la saison 3 de Mercredi est actuellement en développement.
Et je ne cesserai que lorsque nos ennemis auront tous été vaincus. Et par ennemis, j'entends tous les imbéciles assez stupides pour acclamer un discours contestataire aussi insipide que celui-ci.
Et enfin, pour finir sur cette petite rubrique, deux sorties livresques, intéressantes pour ce mois-ci. Le premier est de l'une de mes autrices préférées, c'est Inheritance, la révolte de la reine, de Morgane Moncomble. Elle reprend un peu l'univers de la série Bridgerton, et vous connaissez mon amour pour cette série. Alors, je sais pas vous, mais moi je vais sauter dessus dès qu'il sort. Puis, pour le deuxième livre, c'est encore du fantastique. Il s'agit de Aethera, la légende d'Oriée, de Elisa Raven. C'est un livre qui nous promet un voyage à travers les nuages. Bien, nous avons fini avec nos informations de cinéma et de livres. Passons maintenant au livre d'aujourd'hui. Je vous disais donc qu'aujourd'hui, le thème serait la justice. On va dire que c'est à peu près ça. Le jeu des tricheurs a pour protagoniste deux avocats rivaux, prêts à tout pour gagner. Même à tricher. Je vous présente donc Le jeu des tricheurs d'Anita Regins, une autre de mes autrices préférées. Dans ce livre, on suit l'histoire de Belle Murray, avocate spécialisée dans le divorce, qui retourne à Boston suite à une opportunité professionnelle majeure. Dès son arrivée, elle reçoit une première cliente, une femme fière, manipulatrice et déterminée à divorcer de son mari, aussi fière, manipulateur et déterminée qu'elle. Mais alors, lorsqu'elle se retrouve face à l'avocat adverse, elle n'en revient pas. Belle Murray se retrouve en face de son ennemi d'enfance. Le frère de sa meilleure amie se tenait là, juste devant elle. Et il a bien changé. Priam n'est plus le garçon qu'elle connaissait. Il est devenu un homme. Un bel homme. La rivalité reprend aussitôt, plus intense que jamais. Tous deux sont prêts à tout pour remporter ce procès, quitte à franchir certaines limites. Entre tricherie, provocation et attirance grandissante. Ce duel explosif pourrait bien bouleverser bien plus que l'issue de ce divorce. Alors, avant de vous dire pourquoi vous devez lire ce livre, enfin, pourquoi j'ai aimé ce livre plutôt, je dois vous faire un trigger warning. Ce livre contient des scènes explicites, juste deux si je me souviens bien, mais malgré tout qui restent explicites. Je conseille donc à un public averti, je l'ai environ lu, j'avais 17 ans, ça me semble un âge à peu près correct pour lire ce livre-là en tout cas. Il y a également de temps en temps un langage que je qualifierais de peut-être cru, de l'humour noir du second degré ainsi que du sarcasme. Pour vous plonger un peu dans l'univers du livre, je vais maintenant vous lire une petite partie, puis après vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup apprécié ce livre. Lorsque Paul Namé m'a proposé de le rejoindre à Boston, 3 mois plus tôt, j'ai pas mis longtemps avant de prendre ma décision. J'ai effectué mon stage de fin d'études à ses côtés, quand il était encore à Seattle, et je peux vous assurer que j'en ai autant appris en quelques mois auprès de lui que durant des années à la fac. Paul fait partie de ce genre de tuteur qui prend son stagiaire sous son aile, comme si c'était le prochain poulain sur qui parier. Il a misé sur moi et m'a poussé à prendre toutes les initiatives possibles. J'avais même pour ambition d'intégrer son cabinet à Seattle. Sauf que Paul a divorcé de sa femme l'année dernière et qu'il l'a suivi à Boston afin de se rapprocher de son fils de 7 ans. Il m'a ensuite proposé de le rejoindre. Viens m'aider à plumer tous ces époux et épouses de riches comme Crésus qui ont commis une faute dans leur saint mariage. Voilà le premier argument qu'il m'a tenté. Et retrouver April, c'est ce qui m'a définitivement convaincue. Alors me voici, ce matin, devant le 82 Devonshire Street, à environ 10 minutes à pied de mon appartement. J'arrive rapidement au troisième étage de l'immeuble, là où mon nouveau patron a décidé d'atterrir, lui et la nouvelle secrétaire qui l'assiste. Voilà, alors, premièrement, avec ce livre, ce qui est très agréable, c'est qu'on a une protagoniste qui sort des clichés. Disons que ça va être une femme forte, indépendante, qui se laisse pas marcher dessus et qui ose dire les choses, dont le, ce que je vous disais en début, le langage cru et des fois très direct. Ensuite, quand on le lit, quand on se met rapidement à sa place, enfin à la place de la protagoniste, finalement, nous, on se sent très vite fière et forte via le comportement qu'elle a. Ce qui est aussi pas mal avec ce livre, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté rivalité et compétition qu'on a. Pour vous dire qu'en tant que femme, je me suis tout de suite rangée du côté de la protagoniste pour qu'elle gagne son procès contre son ennemi d'enfance. Pendant que je lisais le livre, on se sent un peu comme sa meilleure amie, vous savez, le genre d'amie qui vous soutient toujours à fond et qui est prêt à vous suivre dans n'importe quelle connerie que vous voulez faire. Bah, c'est un peu comme ça qu'on se sent auprès de Belle Murray, quand elle triche si bien pour gagner son procès. Ensuite, on voit bien que l'autrice s'est vraiment renseignée sur la justice aux États-Unis. Donc oui, pour rappel, Boston, Seattle, c'est bien aux États-Unis, donc tout se passe là-bas, il n'y a aucun détail qui se passe en France. Donc finalement, on s'y croit vraiment lorsqu'elle décrit les procès, lorsqu'elle décrit les cabinets d'avocats, même les procédures, etc. Vraiment, c'est bien décrit, bien expliqué, on a vraiment l'impression d'y être. Et bien sûr, ce qui passe au-dessus de tout, ce qui est encore mieux, bah, c'est la romance. Ici, donc, on a un ennemi stool-over. Comme je disais, ils sont ennemis d'enfance. Et en plus de ça, il y a une autre, ce qu'on appelle trope, c'est que c'est le grand frère de sa meilleure amie. Donc ici, donc, c'est un ennemi stool-over comme on les aime, avec des « on se déteste », on se fait des mauvaises blagues, on se cherche, mais aussi avec de la tension et de l'alchimie palpitante tout au long du livre. Enfin, c'est un livre finalement qui m'a fait énormément rire, mais aussi pleurer. On a une fin heureuse et à la fois triste. J'appellerais ça plutôt une fin magnifique. C'est un livre qui pour moi est vraiment addictif. Pour écrire cette émission, j'ai dû le lire encore une fois de plus et j'ai dû même relire énormément de passages parce que juste j'avais très envie, il était très addictif. Il aborde des sujets aussi plus discrets comme la fierté, l'ego, la revanche, mais aussi la vulnérabilité derrière les apparences. Il faut savoir aussi que donc, ce livre a une suite qui est appelée « Le jeu des menteurs ». Je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je vous fais un update dès que c'est fait, dès que je l'ai lu. Mais pour le moment, nous allons faire une petite pause musicale, toujours avec de la K-pop. Et cette fois, je vous fais écouter une musique dont je ne me lasserai sûrement pas maintenant. C'est Black Mamba, du groupe féminin aespa. Nous voilà donc de retour de la pause pour le mythe d'aujourd'hui. Et comme je le dis en début d'émission, je vais le redire encore une fois, on aborde aujourd'hui le thème de la justice. Et cette fois, on ne peut pas mieux tomber, car notre déesse d'aujourd'hui n'est personne d'autre que Thémis, la déesse de la justice elle-même. Thémis, on dit que c'est une déesse, mais en réalité, c'est une titanide. Donc, un titan, finalement, mais au féminin, donc une titanide. Elle est la fille donc d'Uranus, le titan qui personnifiait le ciel, et de Gaïa, la personnification de la terre. Donc Thémis, en grec ancien, ça signifie « loi naturelle », donc la loi naturelle est considérée comme supérieure aux lois créées par les dieux eux-mêmes. Selon la tradition, Thémis gouvernait l'ordre naturel, notamment l'union entre l'homme et la femme et les liens familiaux. Elle guidait les individus vers le droit chemin, enseignait les bonnes habitudes et veillait au respect des lois. Elle était décrite comme généreuse, bienveillante et sage. Elle était la protectrice des opprimés et gardienne de l'hospitalité. Elle incarnait une justice morale profondément liée à l'équilibre du monde. On dit également que Thémis possédait le don de la prophétie et de la clairvoyance. Donc en gros, elle connaissait les secrets d'un peu tout le monde, même ceux qu'on cachait à Zeus. Alors, bien qu'il y ait un oracle à Delphes, qui était consacré principalement à Apollon, on dit que Thémis en aurait exercé une influence prophétique en arrière-plan. Elle aurait donc reçu son don pour tout ça, donc l'oracle de Gaïa, sa mère, avant d'elle-même le transmettre à Apollon. Il y a une autre version qui raconte que c'est Apollon qui a dû vaincre un dragon pour s'en emparer, comme si en gros le dragon gardait le pouvoir qui fait qu'on peut donner des prophéties, etc. Ensuite, on dit également qu'elle a enseigné à Deucalion et à Pyrrha comment repeupler la terre après le grand déluge. Donc, pour la représentation, en fait, Thémis, c'est un peu la dame de la justice qu'on voit un peu aujourd'hui. Vous savez, la statue avec la femme qui est bandée avec une balance dans les mains. En fait, c'est Thémis. Elle est représentée donc comme une belle femme vêtue d'une tunique blanche. Donc le bandeau sur les yeux est symbole d'impartialité et d'équité. La balance, donc, c'est qu'elle pèse le bien et le mal avant de rendre son verdict. Et de temps en temps, elle porte soit une épée qui est symbole de sanction, soit une corne d'abondance qui est signe de prospérité. Il faut savoir que Thémis fut également une épouse de Zeus. Donc Zeus a eu plusieurs épouses, je crois qu'il en compte à peu près 3 ou 4. La première étant Métis. Cette épouse a été très vite rejetée parce que Gaïa, donc la grand-mère de Zeus, l'a avertie comme quoi que Métis donnerait naissance à un enfant destiné à le détrôner, comme lui-même l'avait fait avec son propre père Cronos. Donc pour éviter cela, Zeus va engloutir Métis. Pour l'histoire rapide avec Cronos et Zeus, si vous voulez, Cronos a reçu une prophétie disant qu'un de ses enfants allait le dévorer aussi. Donc il a dû engloutir tous ses enfants à chaque fois qu'il naissait. La mère de Zeus en a eu marre, elle a mis Zeus sur une île où il a été éduqué en cachette. Et suite à ça, il a grandi et donc il a battu son père. C'est comme ça qu'il a pris donc la tête de l'Olympe, etc. Et donc l'oracle lui a dit la même chose à lui, à Zeus, comme si la prophétie allait de père en fils. Mais finalement, ça s'est pas fait, puisqu'il a englouti Métis. Et suite à ça, il s'est marié avec Thémis. Et donc, tous les deux, ils eurent plusieurs enfants. Donc, les moires, aussi appelés les parques dans l'antiquité plutôt romaine que grecque, c'était donc 3 déesses. L'une était pour la naissance, l'autre le développement de la vie, et la troisième, la mort. En fait, elle gérait un fil, et il y en a une qui commençait le fil, l'autre qui le continuait et la dernière qui le coupait pour finir la vie de la personne. Ensuite, il y a eu les Heures ou Orae, les déesses de la saison et de l'ordre naturel. Il y a d'autres versions aussi qui ajoutent 3 autres enfants comme Astraea, associée à la pureté ou à l'innocence, les nymphes du fleuve Éridan ou encore les Hespérides, nymphes du jardin divin. Et dans une autre tradition encore, on évoque une union avec Japé, donc Thémis et Japé auraient eu un enfant. Donc Prométhée, le fameux titan qui va voler le feu et qui va l'offrir aux mortels après. En résumé, donc Thémis va incarner une justice supérieure et antérieure aux lois divines, aux lois que les dieux vont créer. Elle symbolise un équilibre cosmique, la morale universelle et l'ordre naturel. Son image, donc la balance, le bandeau, l'épée, etc., demeure aujourd'hui encore l'un des symboles les plus puissants de la justice. Notre émission touche déjà à sa fin. J'espère que notre petit moment ensemble vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.